c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on s'intéresse ensemble à l'un des acteurs de cette rentrée politique qui est très présent dans les médias. Et c'est assez surprenant de sa part parce que d'habitude, il se maintient plutôt en retrait de l'actualité.
Le responsable politique qui viendrait vous voir en disant « la prochaine élection présidentielle, non, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ben, » il vous racontera du caramel. Ceux qui vous disent qu'ils n'y pensent jamais vous racontent des cracks. Ceux qui y pensent en permanence et qui ne pensent qu'à ça, sont des dingues.
Vous avez reconnu la voix de l'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe. C'était un extrait de l'émission 7 à 8 de TF1, diffusé le 10 septembre. Aujourd'hui, on va donc essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête d'Édouard Philippe. Depuis qu'il a quitté Matignon en 2020, il semble surplomber la vie politique française. Personnalité politique préférée des Français, candidat chouchou des électeurs de droite dans les sondages et potentiel candidat à la candidature pour 2027. Il a publié pendant cette rentrée un livre intitulé « Des lieux qui disent » aux éditions JC Latex. Et pour décortiquer tout ça, je suis accompagnée aujourd'hui de Bérangère Bonte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice d'une biographie sur l'ancien Premier ministre qui s'appelle Le Sioux et qui a été publiée aux éditions de l'Archipel. Et William Galibert aussi dans ce studio.
Bonjour,
William. Tu es journaliste au service politique de RTL et tu suis et analyses toutes les actualités de la majorité. Bérangère Bonte, pourquoi vous avez appelé votre livre Le Sioux ?
Parce qu'il l'est, il le confirme jour
chaque
après jour.
Jour.
Ça, je pense que tout le monde le constate. Il y a quelque chose d'assez étonnant chez cet homme dans sa capacité à être là sans être là, à dire les choses sans les dire, à pas trop avancer quand même, mais quand même un peu. Et puis à observer beaucoup. Et ça, c'est ça qui m'avait amené à ce titre, à observer un peu précisément comme un Sioux, c'est-à-dire comme caché derrière un fourré, et puis surgir quand il faut, et puis se reculer. Il y a quelque chose de la boxe également, d'ailleurs, dans tout ça. Et je pense que depuis le Sioux est sorti en 2021, un an après sa sortie de Matignon, je pense que beaucoup de gens sont convenus que c'était à peu près le meilleur titre.
Et donc, le nouveau livre d'Édouard Philippe est sorti hier, on l'a lu aussi vite qu'on a pu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, c'est un livre pour entretenir le désir, on va dire. C'est bien écrit. Il y a des très belles pages sur l'école, mais qui racontent en partant de la vision de des trois profs de son entourage le plus proche, son père, sa mère, sa sœur.
Ouais.
Il raconte l'hôpital, là aussi, par sa santé à lui, et la santé de son papa qui était diabétique. Voilà, c'est pas un livre programme. Il l'écrit d'ailleurs.
Oui.
Ça n'est pas encore le temps du livre programme. De fait, on est en 2023. C'est pour 2027. C'est pas non plus un bilan, c'est un récit de qui je suis, voilà, un peu sage, il faut le dire aussi. Emmanuel Macron avait écrit Révolution, vous vous souvenez ? Là, on retourne pas vraiment la table, quoi. On se relève pas la nuit pour relire un passage et on cherche les idées un peu étonnantes, novatrices. Je pense qu'il faut bien s'enlever de la tête. J'ai mis longtemps à le comprendre, moi, quand j'enquêtais sur lui. Que ça n'est pas un homme disruptif, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire penser. Quand on aspire aux plus hautes fonctions de l'État, à donner un cap, à donner envie, bah, ça aurait été bien quand même d'avoir quelque chose d'un peu réjouissant. Quoi.
C'est vrai que tout ça reste très, très impressionniste pour l'instant, qu'il ne se livre pas beaucoup, cet ancien Premier ministre. Et pourtant, ça marche plutôt parce que Édouard Philippe, c'est un gros vendeur de livres qui est monté à des pics jusqu'à 80 000 ventes, qui fait des chiffres qui sont très peu courants pour la plupart des hommes politiques qui écrivent. Et pourtant, c'est vrai. On va dire qu'il se dévoile vraiment goutte après goutte. Enfin, il en reste. Aussi parce qu'il sait qu'il va devoir tenir très longtemps pour justement entretenir cette flamme, comme le disait Bérangère.
Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. 2027, donc Édouard Philippe, on l'a dit, écrit dans son livre « Ce livre n'a donc rien d'un programme ». Mais bon, il faut quand même attendre la page 275 sur à peu près 300 pages pour lire ces mots. On l'a entendu en ouverture de cet épisode. Ses réponses sur la prochaine présidentielle sont maintenant devenues plus directes. Écoutez celle qu'il a donnée à France Inter à la question « Est-ce que vous avez pris votre décision ?»
J'ai une idée assez clair, oui, sur la façon dont, s'agissant de moi, les choses pourraient se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que les circonstances de 2027, personne ne les connaît. Donc, il est idiot, à mon sens, de faire des sondages sur ce qui se passera en 2027, et il est prématuré de faire de la tactique sur 2027.
Édouard Philippe a une idée claire, en tout cas de ce qu'il veut faire pour 2027. Bérangère Bonte, c'est nouveau chez lui, cette façon d'assumer l'échéance de 2027.
Ça fait un petit moment qu'il s'en approche quand même de plus en plus clairement. Là, c'est évident qu'il s'y voit. Ça se voit presque un peu trop, d'ailleurs. Moi, j'ai souvenir d'échanges avec Jean-Pierre Raffarin, il n'y a pas si longtemps, qui me disait vraiment, surtout, il ne faut pas qu'il se montre maintenant, ne pas lasser, ne pas s'user, étant tant pis si on l'oublie un petit peu, il vaudrait mieux qu'on l'oublie un petit peu, et il sera toujours temps, un an et demi avant, de revenir. Là, alors vous dites il est omniprésent, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être plus présent encore, mais je veux dire 7 à 8, Paris Match et la matinale de France Inter, et puis ensuite il part en tournée française mondiale de dédicace. Preuve quand même qu'il est quand même bien bien mobilisé sur le sujet. Moi, je suis très frappée du temps qu'il passe à répondre sur un sujet qui l'agace prodigieusement, qui est son alopécie et son vitiligo. C'est des questions de santé qui ne sont pas un problème de santé. Il n'est pas en mauvaise santé, mais connaissant le bonhomme, ça doit l'agacer, mais prodigieusement, vraiment.
Justement, est-ce que ça l'agace? Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il assume? Comment il réagit face à ça?
Je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement, et il essaie de se débarrasser de ce sparadrap-là, parce que manifestement, il a compris et on lui dit que c'est un problème pour 2027. Que ce visage en apparence malade va être un problème. Alors que c'est le même homme, alors que de fait c'est pas dangereux, alors que c'est pas contagieux, il est pas en danger, il va très bien. Mais moi je suis vraiment frappée par le fait qu'il s'y plie. C'est pas le genre du bonhomme. Et donc, c'est que c'est important.
Et pour savoir si ça l'agace, il suffit visuellement de le regarder quand on lui pose ses questions, de regarder son regard, ses mâchoires, sa respiration qui se crispe, et ça répond à peu près à toutes les questions.
Et écoutez ce qu'Edouard Philippe en dit.
Ma santé est excellente. Voilà, j'invite toute personne qui en doute à venir faire de la boxe avec moi.
William, pour revenir sur la question de 2027, est-ce que lui ou son entourage se prépare? Est-ce qu'on peut commencer à dire que voilà, ça y est, la campagne, pré-campagne est en route pour Edouard Philippe?
Oui, bien sûr, il se prépare tout en sachant et en ayant bien conscience que c'est très loin et qu'il va falloir durer. Et je sais que Bérangère adore le vélo, adore le cyclisme. Quand on est favori, quand on est en tête d'une étape du Tour de France, mais qu'il reste encore 200 km, ben c'est pas forcément la meilleure position. Vaut mieux rester un peu planqué et surgir au moment du dernier col pour garder un petit peu de jus. Et là, le problème, c'est qu'Edouard Philippe, voilà, il a marqué 2027 sur son front. Et le problème, c'est qu'il reste plus de 3 ans avant de partir réellement en campagne. Et donc, comment ne pas lasser? Comment continuer à conserver cette popularité tout en se dévoilant personnellement et aussi en dévoilant ce qu'il a au fond de lui politiquement, son programme, enfin tout ça est une course de fond, et l'entourage d'Edouard Philippe a extrêmement conscience de la difficulté qui va se présenter à lui pour justement garder cette énergie sur la durée, ne pas lasser et faire face aux événements qui pourraient se présenter. Il en a conscience, il le dit, et pourtant il est de fait lancé dans cette course qui va être incroyablement longue jusqu'à 2027.
L'option Édouard Philippe pour 2027 est déjà testée dans les sondages. Il y a eu un sondage sur Le Parisien qui date de début septembre qui fait d'Édouard Philippe le favori pour 2027 des électeurs de droite. Et vous allez l'entendre, il y a une illustration parfaite sur RTL. Cécile, fidèle électrice de droite, qui est conquise par le style Édouard Philippe.
Ah, Édouard Philippe. Ah oui, mais Édouard Philippe, c'est un monsieur. Hein. Pendant la Covid, il a été correct par rapport à notre président qui s'agite, mais qui ne fait rien.
On a l'impression qu'Edouard Philippe, il plaît à tout le monde, parce qu'un ministre, donc membre du gouvernement d'Elisabeth Borne, a eu une formule qui m'a assez marquée. Il me disait « La gauche aussi aime Edouard Philippe ». Il va d'ailleurs être invité à la fête de l'UMA cette année pour débattre avec Fabien Roussel du Parti communiste. William, qu'en pense son entourage? On disait qu'ils n'ont pas un peu peur de cet effet Juppé, d'être trop haut, trop tôt dans les sondages pour au final perdre?
Si on regarde qui était favori 3 ans avant les dernières élections, Jacques Delors aurait été élu président, Édouard Balladur aurait été élu président, Alain Juppé, l'un des mentors d'Édouard Philippe, aurait été élu président. Il suffit de regarder l'histoire politique récente pour se dire que tout ça est compliqué. Ensuite, autour d'Édouard Philippe, on se dit que après Macron, les choses vont changer. Peut-être que les choses vont se repolariser, que le macronisme va mourir, entre guillemets, avec Emmanuel Macron, et que peut-être que la suite, c'est un clivage beaucoup plus traditionnel gauche-droite qui va se reformer. Alors, tu disais, Marie-Pierre, Édouard Philippe, il plaît aussi à la gauche. Autour d'Édouard Philippe, c'est pas trop la gauche qu'on regarde, c'est plutôt comment regrouper voilà les gens qui ont voté Emmanuel Macron, et puis comment refaire venir les brebis égarées, les anciens électeurs de l'UMP ou des Républicains qui pourraient trouver en Édouard Philippe un homme qui incarne leurs valeurs.
Cette primaire de Juppé, c'est un traumatisme pour cette équipe, vraiment. Pour Gilles Boyer, qui était le directeur de campagne, et pour Édouard Philippe, qui était le porte-parole. Ils se sont trompés de campagne. Ils l'ont perçu, pour certains, en cours de route. doute, mais ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Ils ont fait une campagne au centre. Quand vous faites une primaire pour essayer de rassembler les électeurs de droite, eh bien, il faut y aller. Et en fait, ils disent toujours, on a eu 115 semaines en tête, et la 116e, François Fillon nous est passé devant. Et pourquoi François Fillon l'aurait passé devant? Parce qu'il a eu ce génie ou ce cynisme, je sais pas, grâce à Patrick Stefanini, son directeur de campagne de l'époque, de faire monter, d'aller chercher les sens communs, et donc tout l'électorat catholique. Et donc cette droite, moi je suis assez frappée, s'il y a bien une chose qui me frappe également dans le bouquin, et dans son positionnement en ce moment, c'est cette façon de s'assumer à droite, probablement plus qu'il ne l'a jamais fait, je trouve, depuis qu'il a quitté LR, et depuis qu'il a été à Matignon. C'est ce qu'il dit sur l'islam, par exemple, et sur tous les sujets identitaires, c'était aussi des thématiques qu'il n'aimait pas beaucoup explorer. Et sur l'islam, il dit l'architecture de la loi de 1905 n'est peut-être pas en état de gérer les particularités de certaines pratiques de l'islam, pour les pratiques les plus obscurantistes, les plus radicales. Mais il parle aussi de l'école de l'excellence. Donc il parle de l'école, mais de l'excellence.
Donc il se repositionne sur des thématiques de droite.
Exactement. Les accords d'Alger de 68, qui facilitent un peu trop les visas à son goût. Il en a parlé récemment dans plusieurs interviews. Idem. L'abaya, interdire, ok. C'est quand même, ça c'est vraiment nouveau, et je pense que c'est la leçon aussi de la primaire, sachant bien qu'il veut éviter à tout prix une primaire, hein, et que ce serait un scrutin présidentiel. Mais ça, je pense que c'est vraiment, moi ça m'a beaucoup marqué.
Il y a tout de même une particularité, il y a des propositions très marquées à droite, il a aussi parlé de retraite en disant peut-être que la réforme accomplie n'était pas suffisante et qu'on pourrait pousser l'âge. Il parle beaucoup de retour à l'ordre dans les rues, à l'ordre dans les comptes publics aussi. Des déclarations qui pourraient un peu faire froncer les sourcils à l'opinion. Et pour l'instant, même quand il a ces déclarations assez fortes, sa cote de popularité ne s'en ressent pas. En tout cas, il n'y a pas de... Quand Édouard Philippe dit pourquoi pas la retraite à 67 ans, ses sondages de popularité restent au sommet.
Édouard Philippe, époque Matignon, c'est l'interdiction des 80 km/h et les gilets jaunes.
Mon objectif, c'est pas d'ennuyer l'automobiliste qui a besoin de prendre sa voiture. Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif, ce serait d'emmerder l'automobiliste qui, le matin, prend sa voiture pour aller travailler? Il n'en est rien. Mais cette mesure va sauver des vies et éviter des blessés.
Tu le disais, William, Édouard Philippe, c'est aussi la retraite à 67 ans. Il y a eu l'affaire Benalla, une partie de la crise Covid, et on a l'impression que tout lui glisse dessus et que justement les Français ne retiennent pas ce bilan-là de lui. Pourquoi, d'après vous?
Ils en veulent à Macron, ils en veulent pas à Philippe. C'est ça. Je veux dire. Benalla, et puis de fait, Benalla, c'est l'Élysée. L'affaire Griveaux, c'est l'Élysée. Et puis il a été tellement, on l'a beaucoup dit, mais celui qui a tenu la baraque, tenu la barque pendant le Covid, le pédagogue, etc., pendant qu'Emmanuel Macron courait voir le professeur Raoult à Marseille, que c'est resté. Ça a effacé tout le reste, quoi. C'est très étonnant.
Ça rend complètement dingue les macronistes les plus fidèles qui se disent, mais attendez, regardez ce type-là, il a voulu réduire la vitesse sur les routes, il a poussé pour des taxes sur le carburant, il a manqué de sens politique ou de flair au moment où il fallait sentir les choses, il a entraîné des crises et personne ne lui en veut. Voilà, c'est exactement ça. Tout le Emmanuel Macron sert encore de paratonnerre, et effectivement, on a gardé plutôt cette image de l'homme droit et sérieux et solide quand il fallait l'être au moment du coronavirus.
L'autre élément qui permet de deviner les intentions présidentielles d'Edouard Philippe, c'est son parti Horizon.
Le 9 octobre 2021, au Havre, nous avons créé Horizon. Un nouveau parti politique. Alors je sais, un film qui commence comme ça peut sembler rébarbatif, voire franchement sans intérêt.
Bérangère Bonte, quel est le poids du parti politique Horizon?
Vu sa jeunesse, il est énorme. C'est 20 000 adhérents, je crois. C'est 28 députés, 7 sénateurs, 500 élus locaux, dont un certain nombre de maires. Quand vous écoutez les élus de droite, et même les électeurs, ils vous disent il a trahi en partant chez Macron. Donc on va évidemment être prudent, hein, mais c'est vrai que ce parti, il existe, il s'est installé, ils ont un groupe parlementaire. Enfin c'est assez rare dans l'histoire.
Ça rappelle un peu En Marche.
Il y a une structuration. La différence, c'est que là, la structuration s'est faite d'abord par les élus. Il y a une structuration incroyable pour un parti aussi jeune, avec les dotations qui vont avec, les frais, les millions d'euros qui sont venus avec les élus, le groupe parlementaire à l'Assemblée, énormément de maires qui l'ont rejoint. Le petit bémol, il va être plutôt sur les forces vives, vraiment, sur les troupes. Il y a ces 20 000 adhérents revendiqués, il y a des comités locaux qui sont parfois un petit peu des coquilles vides à l'échelle, plutôt à l'échelle locale. Et c'est vrai que la crainte autour d'Edouard Philippe aussi, on dit attention, il ne faut pas que notre parti ressemble à un Rotary Club, un rendez-vous d'élite avec des élus locaux, des maires, des députés, et pas faire forcément cette place à, on va dire, une base militante plus active. Et c'est vrai que là, c'est peut-être le petit point qui manque, c'est que les forces vives, les événements militants autour d'Edouard Philippe, ça c'est peut-être le petit point qui peut manquer.
William a raison d'insister sur les maires, et quand on dit que c'est un parti jeune, en fait c'est un parti qui s'est construit sur les bases de ce qu'on appelait la République des maires, qui est en fait issue de la primaire de Juppé, toujours, avec tous ces élus et maires centristes justement, qui avaient voulu s'engager derrière Alain Juppé, et qui sont restés en soutien, qui venaient même, il y avait des déjeuners de la République des maires autour de leur chef, c'était Christophe Béchu, qui est aujourd'hui ministre du gouvernement. Et tous ces gens étaient là, présents, pendant les années Matignon d'Edouard Philippe. Et c'est ça qui a servi de socle, aujourd'hui, à Horizon, qui donc n'est pas complètement nouveau-né, hein, même si, en tant que parti, c'est évidemment très récent.
Quand on évoque Edouard Philippe, on est obligé d'évoquer aussi Emmanuel Macron. Edouard Philippe a toujours affirmé qu'il s'inscrivait dans la ligne tracée par le président, en tout cas quand il était Premier ministre. En octobre 2018, il l'a rappelé à l'Assemblée avec une formule qui a marqué les esprits.
Le gouvernement qui est là, agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre.
Sauf que depuis, vous allez l'entendre, le discours a changé quand il s'agit d'évoquer sa relation avec Emmanuel Macron.
Concernant vos relations cet été, Emmanuel Macron a dit que vous étiez un ami. Vous le diriez aussi ?
J'étais heureux qu'il le dise et qu'il le pense.
Et vous ?
Moi, je trouve que... Vous voyez, quand vous avez un président de la République et un Premier ministre, leur relation ne se place pas sur le registre de l'amitié.
C'est assez timide quand même comme commentaire. Bérangère Bonte, dans votre livre, vous détaillez longuement la relation, la rencontre entre les deux hommes. Edouard Philippe, il ne s'avance pas trop, là on l'entend, sur son amitié avec Emmanuel Macron. Pourquoi ?
C'est pas son ami.
Tout simplement.
C'est pas son ami. En tant qu'homme, honnêtement, ils se sont pas vraiment trouvés, jamais vraiment trouvés pendant les trois années de Matignon. Ça a fonctionné. Honnêtement, probablement même mieux que ce que certains ont voulu dire, etc. Ok, pour le, pas une feuille de papier à cigarette, mais c'est pas des amis. Et quand Emmanuel Macron le dit, il y a un petit côté baiser de la mort aussi.
C'est cadeau empoisonné.
Ouais, c'est quand même, voilà. Emmanuel Macron est quelqu'un, on en parlait tout à l'heure, de beaucoup plus fou, entre guillemets, beaucoup plus disruptif. Édouard Philippe, c'est l'homme du droit, c'est l'homme de la norme. Il peut être très drôle par ailleurs, mais on n'est pas là pour rigoler. Il lui a toujours été loyal. C'est pour le coup un trait de caractère assez fort. Et ce sera peut-être d'ailleurs un problème. Je dirais à un moment, il faut aussi, dans l'histoire de la Ve République, il faut aussi savoir s'émanciper pour pouvoir tenter sa carte personnelle. Donc il va être entre les deux, son fameux loyal et libre. Il va quand même pas falloir trop le fâcher, le président, parce que, je disais tout à l'heure, il veut surtout pas de primaire. Et ça va être un vrai souci. Si à un moment, parmi tous ces présidentiables là qu'on commence à voir émerger, venait l'idée de faire une primaire, il serait bien embêté, Edouard Philippe.
Et ce qui est très complexe, c'est que Edouard Philippe va devoir expliquer qu'il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron pendant plus de 3 ans, qu'il a continué à appartenir à sa majorité, qu'il a mis des ministres de son parti dans les gouvernements d'Emmanuel Macron, et en même temps il va devoir au fur et à mesure de ce second mandat marquer ses différences avec Emmanuel Macron. Donc c'est cette ligne de crête, comme on dit maintenant, qui est quand même assez difficile à tenir. Et il y avait le loyal et libre chez les amis d'Edouard Philippe. On dit il va falloir peut-être être de plus en plus libre et du coup un petit peu moins loyal.
On parle des autres candidats potentiels à la succession d'Emmanuel Macron. Il y en a un autre, ancien membre des Républicains, poids lourd de la Macronie, avec une ambition certaine, c'est Gérald Darmanin, qui était ministre du Budget quand Édouard Philippe était Premier ministre d'Emmanuel Macron. Écoutez la façon dont Édouard Philippe parle de son ancien ministre.
J'ai avec Gérald une relation ancienne, d'amitié, on se parle très souvent. On a une caractéristique commune, Gérald et moi. On est maire de villes très populaires. Tourcoing, c'est une ville populaire et franchement, le fait qu'il ait réussi à gagner Tourcoing, Ça dit beaucoup de choses sur son talent politique. Le Havre, c'est une ville populaire aussi, vous savez. Très populaire. Bon, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Français.
Est-ce qu'il y a déjà une compétition qui est lancée entre Édouard Philippe et Gérald Darmanin ?
Pour moi, non. Mais il ne faut pas l'exclure. Eux, pour le coup, sont amis. Ça fait une bonne dizaine d'années. C'était quand ils étaient députés, 2012. Il y a ce fameux groupe Bellota, vous vous souvenez peut-être, qui a créé une vraie complicité. C'est du nom du restaurant où ils allaient souvent, avec Thierry Solaire, avec...
avec Sébastien Lecornu.
Voilà, exactement. Et toute cette petite bande-là a quand même... Et ensuite, ils se sont retrouvés autour de la primaire d'Alain Juppé pour Édouard Philippe, Gérald Darmanin s'occupant à l'époque, étant le porte-parole de Nicolas Sarkozy, mais ils se sont beaucoup vus pour mettre en place cette primaire. Donc ils ont cette complicité, cette ancienneté. Je crois qu'Édouard Philippe lui reconnaît un certain talent, donc je pense qu'il va quand même être un peu vigilant, mais Darmanin est un homme malin et assez fidèle, je crois aussi. C'est lui, il est là tout l'été 2020, quand Édouard Philippe quitte Matignon. Il est là, je crois que c'est le 5 juillet, deux jours après le départ d'Édouard Philippe de Matignon. Il est au Havre pour l'investiture. Il est ensuite en août en Toscane avec lui. Enfin, il est présent. Il fait partie quand même du paysage d'Édouard Philippe sans être un intime. Hein.
Ils se respectent. Ils connaissent leurs qualités respectives, leurs ambitions respectives. Ils se regardent préparer la suite. Mais la compétition, le dur de la compétition n'a pas encore commencé.
Mais s'il y a une personne avec qui les relations ont toujours été un peu compliquées, c'est François Bayrou, président du MoDem, l'autre partenaire de la majorité. Dans Le Parisien, François Bayrou a déclaré « Le socle de la majorité, c'est le centre. » Sous-entendu, ce n'est pas la droite et donc les électeurs de droite qui plébiscitent Édouard Philippe. Est-ce que la trêve à laquelle on a pu peut-être un petit peu croire entre le patron du MoDem et le président d'Horizon est donc officiellement terminée ?
François Bayrou, il continuera à défendre jusqu'à la fin de sa vie politique les intérêts de François Bayrou. Donc, il y a pu avoir à certains moments des rapprochements parce qu'ils avaient des intérêts communs, peut-être pour pousser sur telle ou telle décision d'Emmanuel Macron, pour pouvoir agir à un moment sur le remaniement. Les deux n'auraient pas forcément à un moment été opposés à un départ d'Elisabeth Borne. Enfin, il y a eu parfois quelques rapprochements ponctuels, mais les deux défendent avant tout leurs intérêts. Ils ont défendu leur place réservée au centimètre près dans les derniers remaniements et continueront à défendre leurs intérêts. Et François Bayrou, lui, pour le coup, ne cache pas qu'il pourrait retrouver des ambitions présidentielles maintenant que Emmanuel Macron ne peut plus se représenter. Donc, il y a forcément un moment où ces intérêts ponctuels vont à nouveau et ces chemins vont à nouveau se séparer ou s'éloigner, en tout cas.
Pour revenir au livre d'Édouard Philippe, page 48, il se dévoile en racontant la tentative de suicide de son père. Bérangère Bonte, est-ce que ça vous a étonné de lire ce passage qui est quand même assez intime dans ce livre ?
J'avais eu une longue discussion sur son père et sur la façon dont cet homme, qui était diabétique, ne voulait pas, il me le dit comme ça, partir en morceaux, puisque ça arrive dans des cas de diabète un peu très sévères. Il y a des questions d'amputation, il y en avait déjà eu plusieurs, puis il a dit maintenant ça suffit. Et il avait un incroyable respect pour cet homme. Il en parlait de façon très émouvante. Pour me raconter sa toute fin de vie. J'ignorais cette tentative de suicide. C'est un peu surprenant. En même temps, manifestement, c'est important, mais c'est de la même façon qu'il parle de l'école en parlant de la façon dont son père était déprimé en tant que prof, alors que sa mère était épanouie en tant que prof et dont sa sœur a quitté le métier. Il évoque l'hôpital aussi, avec toute cette problématique de la santé de son père. Ces livres successifs, c'était pareil avec Des hommes qui lisent, servent aussi à ça, à raconter, à donner un petit peu. Là non plus, ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup, qu'il affectionne beaucoup, mais c'est comme s'il sait qu'il a 4 ans à tenir. On revient à ce qu'on disait au tout début, quoi. Il donne un petit peu, et c'est quand même une partie importante de lui. C'est une forme de fidélité, je pense, de parler de son père aussi dans ce genre d'ouvrage, et sans doute qu'il continuera à le faire dans les prochains ouvrages.
Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, le faire changer d'avis pour 2027 ou le faire douter?
Pas grand-chose. Ah. Sa famille, pour moi. S'il s'avère qu'elle est observée d'un peu trop près, si ça, il ne le supportera pas. Sa femme n'a jamais donné d'interview. Pas faute d'avoir essayé, moi, pour le livre. On a eu un petit échange, mais pas d'interview. Et donc, chaque femme de candidat peut aussi s'adapter. Hein. Elle n'est pas obligée de faire tous les magazines People, mais c'est vrai que ce sera difficile d'être complètement en retrait. Et ça il ne supportera mal. Il y a une espèce de deal entre eux, lui et sa femme, et globalement lui et sa famille, pour 2027. Mais il n'y en aura pas deux.
Un boxeur, pas vraiment du genre à renoncer au combat. La seule chose qui pourrait le faire plier, c'est de terminer au tapis. Mais en tout cas, pas du genre à refuser le match.
Merci beaucoup Bérangère Bonte, merci beaucoup William Galibert. Vous pouvez écouter tous les épisodes de Focus et les commenter sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.